Es ist ein bestimmtes, ja, un phénomène tout à fait particulier que peu de gens connaissent, et même moi je ne connaissais pas, qu'on appelle le Lebensborn. C'est une association qui a été créée en 1936, elle a été mise en route en 1938. Elle devait servir à créer une race blonde aux yeux bleus. Le siège était à Munich, en Allemagne, créé par ce monsieur Himmler, que je n'ai pas besoin de présenter. Il y avait 20 centres avec 9000 enfants qui sont nés là-dedans, avec des yeux bleus et des cheveux blonds. Il y a en Pologne Bad Polzin, je vais en parler un peu. Il y a en Allemagne du central Wernigerode et au nord, à Brême, le Hohe Horst. En Norvège, il y a eu 10 centres avec 14 000 jeunes gens. Parce que il fallait des gens blonds. Alors, il y avait le logo de cette association. Il y avait des petits documents. Et là-dedans, dans cette image, vous voyez une cruche, un pot. Pour l'Allemagne, ça signifie le pot, un peu le symbole de la vie, ou de la vie qui naît. Les soldats allemands étaient invités, officiellement, étaient invités à donner un enfant, si j'ose dire, faire un enfant, à des femmes, blondes, si possible. Je ne vais pas commenter cette photo. Voilà des jeunes gens, des officiers. Ceci a été pris, c'est une photo, vous voyez des femmes très blondes. Je passe. Bon, ceci illustrait ce que cette association voulait. Voilà donc un officier, voilà une femme qui est porteur de la race allemande, suivant Hitler et Himmler. Et voilà un enfant qui naît. Peut-être c'est moi. En Pologne, j'avais dit qu'il y avait 10 000 enfants ou 14 000 enfants en Norvège et 8 000-9 000 en Allemagne. Ça ne suffisait pas de créer cette race blanche. Alors on a volé en Pologne 200 000 enfants. Vous vous rendez compte? Et ces enfants étaient parfois orphelins de père ou de mère. Parce que les officiers avaient disparu, et là vous voyez une femme qui montre une photo d'un homme avec un enfant, et tout le monde se cherche. Ma vie n'a pas été celle-là. Je suis né, comme je vous l'ai dit, le 6 octobre, c'est écrit le 7, mais c'est faux. Et vous ne pouvez pas le lire, donc faites-moi confiance. Il est écrit que je suis né de ma mère qui s'appelait Erna Irgard-Bayreuther. Elle est secrétaire, elle est protestante, et il n'y a pas de nom de père. Ça, c'est mon premier acte de naissance. Et je vous ai dit, j'en ai quatre. Le Lebensborn, je l'ai dit, ça je l'ai dit. Le symbole, je l'ai trouvé, figurez-vous, seulement il y a 4 ans, quand ma mère est morte, sous un objet. Et à la maison, je regardais Internet et j'ai vu que ce que ça voulait dire, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mon grand-père a été avocat à Vienne, en Autriche. Il a dû... vous savez que l'Autriche a été annexée en 1938, en mars, et il a dû fermer son... cabinet, merci Michel, et il devait même payer une punition. Pardon? L'impôt aux juifs. Voilà mon grand-père, Ludwig. C'est un homme autoritaire. Il avait 3 enfants avec sa femme. Vous voyez là mon père, Gottfried, qui s'appelle aussi Gottfried. Vous voyez mon oncle Kurt. Et vous voyez ma tante, Lise Lotte. Les 3 enfants apprenaient bien sûr la musique. Mon père, le piano, mon oncle, le violoncelle, et les autres, le violon. Il faut que je prenne le texte. Excuse-moi. Alors, on va parler des garçons. Mon oncle, c'est le personnage le plus curieux. Quand il était grand, juste après l'Alsace, il a vendu son violoncelle. Il a acheté un billet pour aller au Havre, en France, et a pris le bateau pour Rio de Janeiro. Il a organisé le fret aérien, le transport aérien, pour TW, Trans World Airlines, TWA, le long de la cordillère des Andes. Au bout de 2 années, il tombe malade de la malaria. On lui dit, vous ne guérirez pas en Amérique du Sud, il faut retourner en Europe. Il reprend le bateau, et au milieu entre l'Europe et l'Amérique, il y a un message de radio, l'Allemagne a annexé l'Autriche. Mon oncle veut descendre au Havre. On lui dit non. Il veut descendre à Rotterdam. On l'enferme dans la cabine. Et il descend finalement à Hambourg, où des gens avec des manteaux longs le voient. Ils lui disent, qu'est-ce qu'un Allemand fait en Amérique du Sud? Espion. Il dit non, je suis autrichien. Allemand, espion, prison. Il trouve dans sa poche une carte de visite de la Lufthansa, de quelqu'un qu'il a sorti de cette prison, et il lui a donné un travail d'organisation du fret aérien, des passagers entre l'Allemagne du Nord et les îles qui se trouvent en Allemagne du Nord. Peut-être vous voyez une fine bande d'îles qui va de la Hollande jusqu'au Danemark. Il a mis l'essence de ses avions un peu à peu à côté pour pouvoir fuir vers le Danemark, ou plus loin encore, qui était neutre. Là, les hommes sont venus avec des manteaux longs et des chapeaux mous et l'ont mis dans un camp de concentration. Dans la queue du camp de concentration, je ne vais pas la décrire, vous l'imaginez, quelqu'un lui a mis la main devant la bouche, on lui a dit, tais-toi, viennois, écoute, fais ce qu'on te dit, fais comme nous. Il a écouté, il est allé du bon côté, et il a allé du côté de la vie. Et on lui a dit, nous sommes des résistants. Ça, c'est le maître mot de la soirée. Nous sommes des résistants. Tout le monde n'était pas résistant, et sûrement pas dans un camp. Mon oncle est retourné, il a survécu au camp. Il a retourné en Amérique du Sud. Il a disparu pour la famille, en vérité. Tout le monde croyait qu'il était mort. Et il a apparu très très tard. Il a sonné à la porte de... Et on a cru que ce n'était pas lui. Je vais passer un peu plus loin. Il est mort... seul, vieux, pauvre. Mon père a pris à côté du piano le métier d'ingénieur d'aviation. Vous ne voyez pas bien les images, je crois. Ce sont des vieilles photos, je ne suis pas très content, mais c'est comme ça. Il a appris à piloter. Ma mère, elle est née en Allemagne du Nord, d'une famille normale, entre guillemets. Mes parents, mes grands-parents du côté de ma mère, avaient une pension de famille et ils n'avaient pas le temps pour ma mère. Ils l'ont emmenée dans une autre famille, dans un port du nord de l'Allemagne. Et elle était dans une école, petite école, elle avait d'excellentes notes, elle était très bonne élève, très bien. Et mes grands-parents maternels sont allés à Brême, et ma mère n'était plus très bonne. Alors mon grand-père a dit, il était autoritaire aussi d'ailleurs, hein, comme l'autre, le Viennois. Il a dit, tant pis, tu vas apprendre à être secrétaire. Ça a cassé ma mère. Ma mère a rencontré mon père en Allemagne du Nord, chez la logeuse de mon père. Et il a travaillé dans il était, comment dit-on, réquisitionné dans les usines de Focke-Wulf d'aviation. Et quand il a vu que les matières premières était la résine qui, en vérité, était des cheveux de femme fondus par la chaleur, il est allé en clandestinité. Il a été faire la musique avec des industriels influents, musiciens aussi. Ils ont joué piano et violon, par exemple. J'ai rencontré plus tard des descendants qui m'ont expliqué ceci. Donc il a pu survivre. Moi, je suis l'Iselotte, je vais en parler un peu, je ne le connais pas. Je n'ai jamais appris ce qu'elle a vraiment fait, sauf elle est partie en France. Je reviendrai un peu dessus plus tard. Je suis né, comme je vous ai dit, à Wernigerode en Allemagne du centre, qui est vallonné, très beau. Il y avait un centre de Lebensborn là-bas, caché dans les maisons. Et je suis né là, voilà. Vous voyez en haut un drapeau, vous reconnaissez le drapeau. Je n'étais pas typiquement un enfant de la mouvance de Lebensborn. Mon père a pris ma mère et moi-même dans ce chalet dans la forêt pour nous cacher. Ma mère tombe malade, et je tombe malade, très jeune, quelques mois seulement. On appelle ça une occlusion estomacale pour les jeunes mères. Et elles savent ce que c'est très dangereux. Personne ne voulait l'aider, la famille autrichienne, non. Mon grand-père paternel était déjà pauvre, avocat mais pauvre. Et mon père, il faisait la musique, il ne savait pas. Alors mon grand-père, là il est vieux, il a pris ma mère, il l'a ramenée en Allemagne du Nord à Brême, et pour ma mère c'était terrible. Alors elle est retournée, c'est ma grand-mère qui était très gentille. Ma mère a repris du travail dans le centre de Lebensborn à Brême, où elle était secrétaire. Et j'y vivais, comme vous avez vu. Vous voyez un bâtiment assez élégant. C'était typique pour cette institution. Et c'était très riche. Une belle forêt, voilà. Peut-être vous voyez ma mère et moi un peu plus grand, mon frère né, Michael, et ma mère a rencontré une dame, une pianiste, elle s'appelle Martha. Elle habitait une petite maison, il faut venir plus en avant pour voir, mais je crois que vous allez faire un film, je vous donne les photos, elles sont incrustées de meilleure qualité. Alors on a vécu de musique. Ah. C'est Noël. Normalement, je jouais déjà du piano et mon frère un peu déjà du violon. Chez nous, tout est atavisme. Je vivais dans la ville de Brême, la photo est mauvaise, mais je ne veux pas... Vous reconnaissez les animaux de Brême. La prochaine fois, je vous raconte l'histoire. Mais je vais vous faire la courte. Les quatre animaux ont chassé les mauvais garçons, les voleurs de la ville de Brême. Il y a longtemps, ils auraient dû les chasser dans les années 30-40. Mais c'était trop tard. C'est très romantique. Et je suis allé à une école privée formidable qui servait à apprendre les muses, notamment la musique, le français. J'ai appris à 10 ans le français. On a fabriqué un bateau. Bastoun était évidemment près de la mer. Plus tard, rencontrer mon père. Et je vais passer un peu. Il était professeur au conservatoire de musique. Il était spécialiste de Brahms. Et je voudrais maintenant vous faire une petite première analyse, si je peux, une sorte d'analyse factorielle des correspondances, comme on dit en sociologie, j'oppose la survie au laisser-faire, ou la ruse pour survivre, d'un côté, et l'autre axe qui oppose le nazisme au humanisme. Mon grand-père, il est avocat, on lui a dit « vous arrêtez », il a arrêté. Ma tante violoniste est partie en Autriche, à Paris. Pardon. Mon oncle, lui, il est, comme je vous ai dit, par la ruse et la volonté de survie, par la résistance, il a su survivre. Ma mère, je vais revenir dessus, mon grand-père, il était... Il était un peu nazi, il faisait partie du parti, mais comme il m'a expliqué, comme tout le monde. Il n'était pas actif, il faisait la restauration, c'était pas méchant, me disait-il, mais il n'a rien fait, sauf peut-être ne pas aider ma mère comme il aurait dû. Ma tante, la pianiste, s'est mise avec ma mère. Et elle était vraiment, elle avait une attitude nazie, elle disait que c'était des gens très ordonnés, très élégants généralement, grands, et avec beaucoup d'ordre, elle aimait beaucoup ça. De qui est-ce que je n'ai pas parlé? Mon père. Il était, je n'arrive pas à le classer bien, je l'ai... un peu mis là, il était artiste, il avait été ingénieur, il a laissé tomber, il a préféré s'occuper de la musique et pour les autres. Je suis allé en France assez vite, j'avais 21 ans, j'aimais beaucoup, je parlais déjà pas mal français. J'ai rencontré Michel, mon épouse, un peu après. Ce sont mes beaux-parents qui sont des résistants, des vrais résistants français, anonymes, efficaces. Ils n'ont jamais rien dit publiquement, on n'est jamais rien demandé. Ils sont un peu plus vieux. Ma belle-mère m'a appris beaucoup de choses. Je me suis fiancé avec Michel. Comme vous n'arrivez pas, je vous la montre. Nous avons deux filles. À droite, là, Dominique, qui connaît bien Velka et Amita. À gauche, elle est avocate. Elle s'occupe beaucoup de mauvais garçons et beaucoup d'antiterrorisme, enfin. Ces questions-là. À gauche, vous devinez Fabienne, qui est artiste, peintre. Elle a 3 enfants, Dominique a 1 enfant. La grand-mère avec ses enfants, à la campagne. Et nous retournons en Allemagne du Nord un instant. Ma tante pianiste, comme je vous ai laissé entendre, avait une relation un peu captive. Comme il n'y avait pas beaucoup d'hommes en Allemagne du Nord après la guerre, comme ma mère aimait beaucoup les muses de la musique, mon père n'était pas là, ils s'étaient séparés, je vous le dirai plus tard un peu plus précisément, ils ne pouvaient pas se marier, c'était au début complètement interdit, parce que mon grand-père est juif, l'avocat, mon père a essayé de se faire baptiser catholique pour apparaître comme un mélange, un mischling, je ne sais pas le dire bien autrement. Donc, on lui a jamais donné l'autorisation de mariage. Donc, ma tante nous a accueillis et elle a littéralement captivé ma mère. Nos voisins, c'était les mêmes personnes qui, quand j'étais jeune homme après, qui faisaient les résines avec les cheveux de femme. C'était des industriels notables. Ils habitaient juste à côté. Et un jour, j'avais 16 ans ou 15 ans, j'ai écrit à la ville de Vienne en Autriche pour demander est-ce que le docteur Ludwig Marcus, parce que c'est le nom de ma famille en vérité, Marcus existe encore. Cette lettre a été interceptée et jusqu'alors on m'avait dit « ton père est mort dans la guerre ». Là, on m'a avoué la vérité. Et ma tante a dit, ton père n'est pas mort. C'est un mauvais garçon, il a été en prison. Et ton oncle, il a disparu. Mon père a été en prison parce que ma tante et ma mère ont fait accuser mon père pour qu'il paye une pension de vie, de l'argent, pour vivre. Parce que le piano, ça ne rapporte pas beaucoup. Ma mère était plutôt poète et gagnait évidemment rien. J'étais, comme je vous ai dit, parti en France. Je n'ai pas voulu rester en Allemagne. Et la France m'a accueilli les bras ouverts. J'ai été naturalisé en 71, donc à 30 ans. Et ça, c'est mon deuxième acte de naissance. Je vous ai dit, j'en ai plusieurs. J'en ai beaucoup même. Et là, il y a le nom de ma mère. Il n'y a pas de nom de père. Il y a le nom de ma femme. C'était bien pas mal aussi. J'ai écrit plus tard en Allemagne, quand le rideau de fer est tombé, c'est-à-dire en 1990, vous ne pouvez pas le lire, mais croyez-moi. C'était sous le régime, communiste allemand, et on m'a envoyé un acte de naissance, l'acte de naissance numéro 3. Il n'y avait pas de nom de père non plus, mais il n'y avait plus de croix gammée. C'était déjà un avantage. Et puis, le mur de Berlin est tombé, et en 1994, l'Allemagne a été réunie, et là, Eureka, vous ne le voyez pas de loin, mais croyez-moi, je vous le lis, il y a Gottfried Marcus, donc le nom de mon père, il est catholique, il habite en Allemagne du Nord, et ma mère est donc Langerbayer. J'ai gardé ce nom plus tard. Donc, je dis un peu entre guillemets « Eureka », parce que vous pouvez imaginer, c'est quelque chose d'important. Oh, pardon, là, j'ai fait une grosse bêtise. Je ne sais plus où je suis. Je refais ici. Voilà. Ah oui, c'était... Donc, je me suis élevé dans les airs. J'ai appris... pris l'avion, mais je ne savais pas que mon père pilotait. C'est pas mon père à côté, c'est un pilote, un vrai, avec son petit avion en plastique. J'ai essayé l'avion sportif, j'ai eu très peur, mais je pilote pas mal. J'ai essayé de faire quelque chose pour les autres. Je suis allé dans l'humanitaire, dans les non-governmental organizations, ONG, par exemple en Éthiopie, pour l'eau. L'eau d'Éthiopie a de grandes sécheresses et on m'a demandé d'aider à étudier les choses comme j'étais logisticien à l'université. Là, c'est un grand trou d'eau. Tout a explosé, le plastique qui devait retenir l'eau a explosé et l'eau a disparu en quelques jours. Ça a été très bien organisé, mais ça n'a pas fonctionné. Et une ville en Éthiopie avec plein de petits enfants, sans enfants, plein de petits enfants sans parents, qui sont du Rwanda, des fugitifs. Ils ont tous à peu près l'âge où leurs parents ont quitté le Rwanda. Ma mère est morte en 2004 et j'avais dit que... Ah oui, je voulais voir avec Michel Wernigerode, dans le centre de l'Allemagne. C'est un peu loin pour retourner à Paris. L'état civil, les officiers de l'état civil ont accepté de me montrer le livre, le vrai livre de naissance. Vous ne le voyez pas à gauche, c'est écrit là, mais personne ne doit le voir. C'est interdit de le montrer. J'ai un peu dit, je suis français, je ne viens pas souvent, je ne sais rien de ma famille, soyez gentil, montrez-moi. Ils ont retourné le livre, ils me l'ont fait lire, et ça, là, c'était écrit que, je vous rappelle, je suis né le 6 octobre, mon père m'a reconnu le 23 octobre, non pas avec une carte d'identité, parce qu'il avait, avait été écrit dessus qu'il était juif. Et c'était en 1941. Et avec sa licence de pilote. Donc, voyez-vous, ça sert à quelque chose, une licence de pilote. Donc, ils m'ont même accepté de me donner une photocopie, ce qui m'a permis, à partir de cette date-là, 2004, de faire des études pour voir ce qui se passe. J'ai demandé à l'État allemand de me donner les documents au nom de ma mère. Ils m'ont donné beaucoup de choses, des demandes de mariage, refusées, des demandes d'aide refusées. Mon père, qui avait, comme ma tante me l'avait dit, été mis en prison, a été effectivement en prison, il a plus tard dit, je ne veux plus rien avoir à faire avec les Allemands. Je ne suis pas tout à fait juif, je ne suis pas tout à fait catholique, je suis en allemand, on dit mélangé, méché, du premier degré. Je trouve ça drôle, je crois qu'être juif ce n'est pas génétique, c'est autre chose. En plus, il n'a pas compris pourquoi ma mère avait accepté que notre tuteur était un officier SS, M. Schulz. Je ne connais pas plus, je n'ai pas de photo. Mais mon père a dit non. Donc, j'ai écrit à l'État allemand depuis la France et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne a aidé, a permis, premièrement, à ce que mes parents se marient? Deuxièmement, personne n'a aidé ma mère financièrement, ni donc mon frère et moi. L'État allemand a répondu non, les lois ne le permettent pas. Surveillez dans les journaux si les lois changent. Je trouvais que c'est assez, comment dit-on, cocasse, presque allemand. Ça pourrait être le mot juif. Alors je me suis mis à faire autre chose aussi. J'ai fais un peu de peinture par ordinateur. J'aime beaucoup ça. Et voilà un camp de concentration dessiné par ordinateur. Il n'est pas très réaliste, mais c'est une image mentale, je crois. J'ai dit résister ou laisser faire. De quel côté va-t-on ? À droite ou à gauche ? Laisser faire, c'est une chose, résister, une autre. Là, je vois un groupe de gens qui se demandent qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez le symbole J pour les Juifs. Et ce qui se passe, c'est ça. Ils sont dans la queue et ils vont beaucoup dans la chambre où ils peuvent être gazés et brûlés. Je vous ai dit. Non, je ne vous ai pas dit. Je vous ai dit que j'ai rencontré mon père. Oui, j'ai sauté parce que je ne voulais pas manipuler toutes ces pages. C'est quand j'avais 26-27 ans, j'ai demandé à voir mon père. Et je suis allé seul, je ne l'ai dit à personne. J'étais déjà marié, mais je suis allé voir. Il m'a reçu au conservatoire. Il m'a parlé beaucoup de musique. Il m'a beaucoup parlé de ma mère. Il a dit, elle était si poétique, elle aimait Rilke, Rainer Maria Rilke. Et c'était bien, mais il ne comprenait pas. Bonsoir. Et il disait, il ne comprenait pas pourquoi ma mère a accepté de retourner au Lebensborn, dans cet organisme qui était si dangereux pour lui et qui était si dangereux pour moi, qui était si dangereux pour mon frère. Mais en vérité, je lui ai expliqué, elle s'est cachée. Elle s'est cachée, on dit, au milieu de l'œil du cyclone. C'est-à-dire là où on ne chercherait jamais des descendants de juifs. Parce qu'il y avait un contrôle. Bon, mon frère et moi, on avait des cheveux blonds, mais pas des yeux bleus. On était trop petits, ça ne se voyait pas. J'ai quitté mon père le soir même. Je n'avais pas envie de... J'étais trop jeune, c'était trop de choses. Je n'avais pas envie de rester. On s'est appelé quelques années après, une ou deux fois. Quand j'ai appelé la troisième fois, elle était morte. Je vous ai dit que mon oncle, il est revenu très très tard. Il a survécu au camp par la résistance. Il a dit que les camps étaient pour lui très instructifs. Il avait appris beaucoup beaucoup de choses. Bon, pour moi, c'est un peu difficile à entendre. Mais d'un autre côté, qui ne veut pas survivre? Tout le monde veut survivre. La manière de survivre... importe. Lui avait donc choisi la résistance. Je voulais reprendre cette même analyse de tout à l'heure. Et les questions qui sont dans ma tête, que je vous ai montrées un peu, où j'ai placé les uns les autres. Ma tante qui nous a recueillis, qui avait dit ton père est mort, qui avait dit ton père a été non pas mort, mais finalement en prison, qui a voulu rester avec ma mère. Elle a empêché ma mère à se remarier. Bon, est-ce qu'elle n'était pas en vérité humaniste aussi? C'est une question très difficile que je voudrais vous poser à tous plus tard. Je crois, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais de faire une autre chose et de résumer avec vous un peu les attitudes. C'est-à-dire, je crois à la résistance. Je crois que c'est essentiel. En toutes circonstances, il y a des chemins quelques chemins vont quand même vers l'avenir. Alors, j'ai listé dans ma tête à moi trois méthodes de survie. C'est de Lise Lotte, ma tante, qui est partie très vite après l'Anschluss à Paris pour se marier avec une famille, dans une famille industrielle influente en France. Et vous connaissez, vous les historiens en tout cas, la manière de parler de l'Autriche dans laquelle on disait « Toi, Autriche heureuse, laisse les autres faire la guerre, mais marie-toi. » C'est ce que les Lotte a fait. L'autre méthode, c'est par une intégration qui est plutôt feinte, où mon père a été ingénieur d'aviation. Il était artiste en même temps, donc il fait croire qu'il est intégré, mais le fait de découvrir les horreurs des camps de concentration, parce que les cheveux de femmes devenaient la résine pour fabriquer des éléments d'avion. Il est donc allé en clandestinité. Il s'est adapté, ou plutôt, il a trouvé une méthode de survie en étant caché avec des gens qui aimaient la musique. Lui, joue du piano, et eux, violon, généralement, comme je vous l'ai déjà dit. Ma mère a utilisé une autre ruse en se cachant dans les Lebensborn en Pologne, mais surtout en mettant au monde à Wernigerode, c'était un danger de mort. Mais on ne l'a pas cherché là. Puis elle a travaillé dans les Lebensborn en Allemagne, à Brême. Et là, elle a été cachée pour mettre mon frère au monde aussi. Il y a la résistance par la fuite et la débrouillardise, je ne connais pas le mot plus simple. C'est le cas de mon oncle Kurt, qui est allé en Amérique du Sud, qui a été interné dans les camps, qui est retourné, je ne l'ai pas écrit, en Amérique du Sud longtemps, puis il est retourné à Vienne, il est devenu pauvre par un accident financier, je ne sais pas si je dois raconter. Il avait acheté une très grande maison avec l'argent gagné à Vienne. Il a laissé une pompe d'eau fonctionner pendant 20 ans. Et l'eau est une dette imprescriptible. Elle ne s'efface jamais. Même quand vous achetez une maison, si le compteur d'eau n'est pas payé, vous devez le payer. Et c'était autant d'argent qu'il n'y avait. La maison avait disparu. Mais il m'avait dit comme richesse, il a trouvé les camps de concentration, une grande école pour la survie. C'est un peu ce que je voulais vous transmettre comme message, si je peux en transmettre un. Et c'est le seul homme, non pas femme, en Allemagne, il y avait peu d'hommes, donc c'est le seul homme qui m'a appelé mon fils. Moi-même, j'ai essayer de résister autrement. J'ai dit, quand j'étais encore jeune homme à Brême et Hambourg en Allemagne, le service militaire, il n'est pas question que je le fasse. Je ne fais pas la guerre. Vous l'avez fait. Les horreurs, je les ai supportées. Vous aussi, mais moi aussi. Et il va y avoir d'autres solutions. Je pense plus diplomatiques, plus humaniste, je ne sais pas. C'est vous qui le savez mieux que moi. Et comme j'ai beaucoup de questions que j'aimerais vous soumettre, et je vais retourner là-haut. C'est-à-dire, que pensez-vous? Est-ce que ma mère a bien fait d'entrer dans cette organisation, Lebensborn, qui était nazie, terriblement nazie, mais très secrète? La deuxième, c'est ma famille à Vienne. Devait-elle protéger ma mère beaucoup plus? Pouvait-elle protéger ma mère beaucoup plus? Mon grand-père de Brême quand maternelle, devait chercher ma mère et moi-même pour retourner en Allemagne du Nord. Donc, empêcher à jamais, enfin empêcher pour longtemps, un éventuel mariage de ma mère avec mon père autrichien. La quatrième, c'est ma mère devait-elle accuser mon père pour recevoir une pension pour la vie, ce qui a risqué de le mettre en prison. Ma mère devait-elle accepter comme tuteur un SS? C'était aussi une ruse, mais inacceptable pour mon père. Je vous pose la question, qu'en pensez-vous? Ma marraine, ma tante Martha, qui était jusqu'à la fin de ses jours quelque chose comme nazie, mais nazie gentille et intelligente, mais nazie quand même. Est-ce qu'elle était honnête en nous recueillant? Est-ce qu'elle n'était pas en tombant amoureuse de ma mère et surtout de mon frère et de moi-même? La question suivante, c'est: ma mère devait-elle se remarier pour nous donner un autre père? C'est une question très moderne aujourd'hui. Devais-je aller voir mon père ou revoir mon père? Je l'ai vu une seule fois, 12 heures. Dois-je aujourd'hui attaquer l'État allemand et l'État autrichien pour réparation? Je vous signale, ma génération, c'est-à-dire 55-65 ans, attaque les États allemands, autrichiens, norvégiens pour tous les mal qu'ils ont, les maux qu'ils ont subis. Dois-je écrire? Hier soir, nous avons discuté longuement avec Velka Dimitar autour de Madame le professeur Maura Di Bernardi, et on m'a expliqué peut-être écrire, c'est aussi de faire un héritage, donner un héritage aux jeunes. Il est vrai que ma fille, la plus jeune, l'artiste, lundi, elle a été très dure avec nous, et elle a dit: pourquoi vous nous cachez tout? J'ai dit: quand je reviens d'Italie, je vous dis, je vous montre les papiers. Il est vrai, je reçois encore des papiers actuellement parce que les archives s'ouvrent que petit à petit. Alors écrire, dois-je faire moi-même? Est-ce que quelqu'un peut le faire, veut le faire? Comme je sors un peu de l'université, peut-être il y a des éléments pour une thèse que quelqu'un veut faire, et notamment sur le fameux ou l'affreux système Lebensborn qui devait créer la race pure aryenne allemande qui n'a évidemment pas du tout marché. Donc je vous ai dit les choses un peu autrement que peut-être d'autres personnes peuvent le faire, mais c'est mon histoire. Je vais m'arrêter là pour répondre aux questions, s'il y en a.